Pour l'été.
Parce que tu veux garder tes bourrelets.
Ou pas, hein.
Parce que les mecs, ils te font chier dans la rue.
Parce qu'on parle jamais du clitoris.
Parce que je ne suis ni ta moitié, ni une demi-portion.
Parce qu'on dit que les règles, c'est sale et que tu pues de la chatte.
Parce que t'es trop ou pas assez.
Parce que tu manges le gras.
Parce que je ne veux plus me taire.
Pour qu'on puisse parler.
Parce que, tout simplement, nous voulons conquérir le monde.
Le monde ! Le monde !
Bonjour, Lilith, Martine et les autres sur Radio Canu 102.2. Alors, aujourd'hui, nous faisons une émission sur le thème de l'avortement. Eh bien, déjà, il faut dire que dans notre raisonnement, nous avons en ligne de mire la souveraineté du corps de la femme. Donc, nous avons décidé de faire une émission sur la question de l'avortement dans toute sa complexité politique et pratique. Donc, pour précision, nous partons du postulat pro-avortement. En aucun cas, nous ne remettons en cause le droit à l'avortement, même si nous en montrons sa complexité. Donc, le postulat de départ est pour le droit à l'avortement, et après, on discute. Et pour discuter, nous avons invité deux militantes féministes qui ont défendu et milité pour le droit à l'avortement. Cette démarche est dans une logique de transmission. Transmission entre les générations et transmission des savoirs. Nous nous intéressons donc aux années 60-80 pour cette émission. Une autre émission sera consacrée à l'avortement de nos jours. Elle sera dans un mois. Avant de commencer donc l'émission, par un bref historique, nous voulons rappeler que dans toutes les sociétés et de tout temps, il y a eu une régulation des naissances par les femmes elles-mêmes ou par les politiques. Donc voilà, maintenant un bref point historique avant la discussion.
Donc on va remonter en fait à la loi de 1920 qui réprime la complicité et la provocation à l'avortement ainsi que toutes les propagandes anticonceptionnelles. Et laisse en vente libre les préservatifs. Après, ça sera à chaque fois renforcé. Si on part de 1920, c'est parce que cette loi a été abolie en 2001 et qu'à la fin du 19e siècle, l'avortement était très important, assez reconnu et qu'il y avait beaucoup de mouvements qui étaient pour la régulation des naissances. Et à partir de cette loi, en fait, il y a eu un énorme retour en arrière. Ainsi, en 43, il y a eu une, c'était la dernière faiseuse d'ange qui a été guillotinée pendant la guerre et après ça a été aboli les peines de mort pour l'avortement. Mais ça restait toujours planant. En 67, il y a eu la première loi Neuwirth pour la contraception. En 72, le procès Bobigny qui mettait en accusation une mère qui avait permis, qui avait fait l'avortement de sa fille mineure avec...
La mère et la fille,
et donc la fille a été relaxée, et c'est là qu'il y a eu le mouvement qui s'est envolé. En 75, il y a eu la loi Veil, j'arrive pas à parler, excusez-moi. En 75, il y a eu la loi Veil provisoire pour 4 ans. Mm-hmm. En 76, le premier centre orthogénie à Lyon, et en 79, par je ne sais plus quel député, la loi a été acceptée.
Et maintenant, la cloque du collectif pour des chansons de femmes.
J'ai dit, j'étais en cloque. Il m'a dit, tu sais, moi je m'en moque. Le 10 du mois, je m'en vais à l'armée. J'ai pas l'instinct de paternité. Quand je leur ai dit que j'étais en cloque, mon père m'a flanqué une taloche. Ma mère m'a dit, faut te marier, mais moi je voulais le faire passer.
Vous êtes bien sur Radio Lilith, Martine et les autres, une émission féministe sur Radio Canu.
Bon, alors nous allons commencer la discussion. Alors je vous présente nos deux invités. Alors d'une part, Jacqueline, militante féministe et médecin généraliste. Bonjour.
Bonjour.
Et de Bonjour. Part, Josette, militante féministe et travailleuse sociale à la retraite.
Bonjour.
Alors, on va commencer par une première question. Donc, comment avez-vous connu le réseau des avortements clandestins de Lyon ?
Comment j'ai connu le réseau des avortements clandestins ? Par les femmes, hein. Certainement pas par mes collègues médecins. Il faut dire que j'avais été sensibilisée quand même à l'avortement quand j'avais 14 ou 15 ans. J'habitais dans mon HLM et on savait très bien dans l'allée quand l'ORL venait, c'était qu'il venait placer une sonde à une dame et qui rendait un grand service à la population. Donc voilà, il y avait une tolérance pour ce monsieur qui n'a jamais été dénoncé, je crois, mais il rendait service dans les immeubles. Voilà, ça a été ma première expérience avec l'avortement, si je peux dire. Ensuite, lorsque j'étais étudiante en médecine, et dans les années 66, la première autopsie à laquelle j'ai participé, c'était une jeune fille qui avait mon âge. Elle avait donc une vingtaine d'années. Et le médecin qui pratiquait l'autopsie, qui était donc notre professeur, nous disait très froidement, quand on trouve une jeune femme décédée à domicile et qu'elle n'avait pas de maladie particulière, il faut toujours ouvrir l'utérus et en général on trouve une sonde et un fœtus. Boum. Ce qui m'a poussée un peu à faire à être interne de porte à l'hôpital Hôtel-Dieu, qui à l'époque avait une grande faisait service d'urgence, et il y avait un médecin, un interne spécial pour les femmes avortées qui venaient dans la nuit, parce qu'il y en avait tellement que ceux qui assuraient les autres urgences ne pouvaient pas tout faire. Donc j'ai reçu comme ça pas mal de femmes la nuit pour des avortements. Donc elles venaient toutes bien sûr avec 42 fièvres. On commençait par leur faire une injection antitétanique bien sûr, et puis elles étaient toutes en état de fièvre, de septicémie grave. Elles étaient hospitalisées, donc on voyait malheureusement des scènes qui étaient terribles. Souvent elles venaient avec leur mère ou bien avec leur compagnon ou bien toutes seules. On les faisait hospitaliser et dans les services on manquait pas de nous faire remarquer qu'il fallait faire attention parce qu'elles allaient repartir avec peut-être du matériel pour à nouveau s'avorter clandestinement bien sûr. D'ailleurs pendant les études on apprenait les symptômes de l'avortement, c'était l'avortement criminel. Donc ça mettait tout de suite les choses au clair. Ce qui fait que quand j'ai commencé à faire des remplacements de médecins, dans les années 70-71, une des premières patientes que j'ai eues m'a posé ce problème et m'a dit, voilà, j'ai déjà trois ou quatre enfants, je ne me souviens plus et je ne veux pas garder celui-là. Donc j'ai été bien embêtée, je ne connaissais absolument pas d'endroit où avorter. Je voulais quand même rendre service à cette femme. Donc, par une copine qui était anesthésiste à l'hôpital Édouard Herriot, j'ai su qu'il y avait là des gens peut-être qui s'occupaient de ça, qui signaient des papiers d'avortement thérapeutique. Et je me suis rendue à une réunion comme ça. Et c'est là où j'ai découvert effectivement le réseau d'avortement clandestin. Voilà, auquel j'ai participé ensuite, jusqu'à ce que la loi, bien sûr, arrive. Jusqu'à un an après la loi même.
D'accord, on parlera de l'expérience juste après. On va laisser la parole à Josette pour...
Alors, moi je suis arrivée dans la région lyonnaise en 73 en fait. C'était pas à Lyon exactement, c'était à Vouvelin. Bon, il a fallu un peu de temps pour que je prenne mes marques et je travaillais donc à la mairie de Vouvelin. Et je cherchais un lieu pour militer pour le droit des femmes et j'ai appris que dans un centre social autogéré, il y avait une salle, ça s'appelait le Bain du Taureau. Donc ça rappelle aussi certaines choses. Mais à l'époque, c'était donc pour accompagner des femmes, recevoir des femmes en premier temps, une fois par semaine, et discuter avec elles, parce que on en recevait bien une vingtaine, et fallait qu'il n'y en ait que deux ou trois, même. Enfin, ma mémoire est un peu juste, mais quelques-unes seulement qu'on pouvait avorter nous. Et les autres, elles pouvaient aller avorter soit en Grande-Bretagne, en Angleterre.
Hollande.
Et en Hollande, merci Jacqueline. Voilà.
On ne pouvait pas les prendre par manque de médecins et de local.
Oui, j'ai pas bien entendu ce que tu as dit, mais c'est pas trop grave. Donc... voilà, donc on faisait donc une réunion par semaine. Donc pendant cette réunion, les femmes discutaient entre elles. Elles avaient beaucoup de mal à discuter justement parce qu'elles étaient dans une situation de détresse. Et il fallait que sur tout ce groupe de femmes, qu'il n'y en ait qu'une ou deux qui puissent être avortées sur Lyon et les autres. Donc voilà, c'était... ça, je passe un peu là-dessus. Je trouvais ça très compliqué et très douloureux.
Ouais, ouais, mais bah, continue à nous expliquer.
Là, non,
bah, non, ouais. Non, tu peux continuer à expliquer ton expérience dans les réseaux, quoi.
Voilà.
Dans ce groupe-là.
Bon,
comment tu marchais, ton rôle pendant, dans ce groupe
Bon, mon rôle, j'avais en fait, on peut dire presque deux rôles. Non, c'était la continuité de l'un de l'autre. Bon, je faisais partie effectivement des personnes qui recevaient ces femmes en détresse. Et j'accompagnais également les femmes qu'on avortait sur Lyon, donc dans un local devant la préfecture, c'est un local de l'AMNEF, voilà. Et donc je participais aux avortements, mais en tant que, comment je pourrais appeler ça, en tant
qu'accompagnatrice,
voilà. Donc parce que je n'ai jamais voulu faire des avortements moi-même, parce que c'était quelque chose que je trouvais très très dur et très douloureux. Donc voilà, mon rôle consistait à tenir la main de la personne qui se faisait avorter, d'aller voir avec le médecin à chaque fois qu'il y avait du sang, d'aller voir, nettoyer pour voir, on faisait ça dans une passoire à thé pour voir si on avait eu le, si on avait réussi à avoir le fœtus. Bon, puis un jour, une femme qui était venue nous rencontrer, parce qu'on avait quand même une limite dans nos, dans les avortements, méthode Karman, on pouvait pas faire ça au-delà de... Est-ce que tu te souviens, toi, Jacqueline,
Écoute, combien de temps ? De toute façon, on n'avait pas d'échographie, alors,
ma foi. Oui, mais on avait quand même une limite dans le temps.
Ouais. Mais par rapport à ton rôle d'accompagnatrice, c'était... tu leur parlais pendant l'avortement, tu leur... T'avais un... Comment oui, toi, tu alors, développais ton rôle vis-à-vis des femmes ?
Bon, leur parler, j'avais beaucoup de mal parce que des fois, je me disais que je souffrais plus qu'elles, mais je leur tenais la main, je les accompagnais quand même par une présence, j'essayais de me contrôler, je pouvais aussi leur caresser le visage, leur essuyer la, si elles avaient de la transpiration sur leur visage, je leur essuyais le visage, voilà, j'essayais de faire au mieux que je pouvais pour les rassurer. Bon, il y avait déjà la, quand elles arrivaient, on les rassurait, et puis voilà, d'être présente pour les rassurer, les soutenir.
Tu parlais?
Leur parler, des fois, j'avais un peu de mal parce que j'étais.
Tu les écoutais?
Des fois, elle disait rien du tout, hein. Même des fois, mais je souffrais aussi dans ma chair, quoi.
Mais est-ce qu'elle elle te remerciait de ta présence? Même si, parce que des fois, on n'a pas besoin de parler, en fait, pour soutenir les gens.
Bah, remercier, je pense que, oui, il y avait, c'était, comment dire, parce que du vrai remerciement, on peut pas appeler ça comme ça, mais il y avait, ben oui, on était une fraternité, ben, c'est pas une fraternité parce qu'on est des femmes, mais une sororité, quoi, je veux dire, dans la mesure où moi j'étais là pour les soutenir, elles voyaient bien que, ben, que je le faisais de bon cœur, mais que ça, c'était pas une chose facile pour moi, donc effectivement, il y avait quelque chose de fort qui passait entre elles et moi, ça okay. C'est sûr.
Et il y avait juste un endroit où vous alliez avorter? Où
on faisait les avortements, nous, dans notre réseau de Vaux-en-Velin, c'était à l'AMNEF devant la préfecture du Rhône.
D'accord. Et sur Lyon, il y avait plusieurs endroits où on pouvait, où il y avait des endroits pour se faire avorter ou...
Oui, et même, moi, j'ai une copine qui a prêté son appartement pour faire des avortements sur sa table de cuisine. Donc... C'est vrai, mais bon, Jacqueline me dit de pas dire ça, mais c'était fait quand même avec un médecin.
Tu sais pourquoi ? Parce que ça nous était tellement reproché, ouais. Qu'on était les supermarchés de l'avortement, même si c'était sur une table de cuisine, il y a toujours eu la volonté de faire ça stérilement, médicalement. Et si jamais on avait eu une seule suite dramatique, je peux te dire qu'on allait direct en prison.
Oui.
Donc si tu veux, on peut dire table de cuisine, on peut dire tout ce qu'on veut comme mieux. On faisait avec les moyens du bord, c'était la médecine de guerre, si je peux dire. Mais on a toujours fait attention à avoir une pratique médicale classique, si je peux dire.
Donc toi, c'était quoi ta pratique dans les réseaux clandestins, Jacqueline?
Alors... bon, bah, il faut remonter pour ça à l'historique, si vous voulez, comment cette loi est passée. Elle n'est pas tombée du ciel, et c'est pas que grâce à Madame Simone Veil, bien que je la respecte beaucoup et qu'elle en ait aussi pris plein la figure quand elle a défendu la loi. Mais c'est venu à la suite, comme tu le disais, Anne-Claire, du procès de Bobigny, de cette dame et cette fille qui ont été inculpées. Je voudrais vous dire quand même que si la loi, cette loi qu'on appelait la loi scélérate en 1920 a été abolie, elle n'a été abolie qu'en 2001. Et que jusqu'à 2001, si on vous avait trouvé l'une ou l'autre en vous avortant vous-même, vous étiez passible de la peine de prison et d'amende. jusqu'en 2001. Bien sûr, ça n'était pas appliqué, mais c'est tout à fait récent. C'est-à-dire que la loi sur l'avortement existait toujours jusqu'en 2001, sauf dans certains cas. C'est-à-dire que si on allait se faire avorter dans un établissement privé ou public, ayant une structure adaptée, un service de gynéco, une structure adaptée, et puis plus récemment depuis le RU, dans certains centres, enfin en montrant patte blanche, en disant exactement qu'on fait, mais jusqu'en 2001, une femme qui voulait s'avorter, qui aurait pris une potion ou n'importe quoi pour s'avorter, elle était toujours passible de la loi. Il faut espérer que ça ne se serait pas fait. Hein. Mais enfin.
D'accord. Et toi, ton expérience en tant médecin dans les réseaux.
En tant que médecin, à la suite de ce procès, s'est créé donc le mouvement Choisir avec l'avocate Gisèle Halimi qui a eu un grand rôle, qui voulait faire changer absolument cette loi et qui voulait qu'on y arrive par des voies juridiques. Et puis il y a eu un certain nombre de médecins et d'autres personnes, bien sûr, surtout des militantes, qui ont dit on ne peut pas attendre que la loi change. Il y a des femmes qui sont là dans l'urgence. Et donc, il faut se donner les moyens de les pratiquer nous-mêmes et montrer que cet acte est un acte qui est relativement facile médicalement à faire. Donc, certains d'entre nous sont allés apprendre cette méthode Karman, qui existe donc du nom de la sonde qui avait été inventée, qui avait été faite. En fait, c'était les Chinois qui aspiraient leur...
Je crois que c'était le nom du médecin, Karman.
C'était le nom du médecin, c'est docteur Karman. Donc, je pense que cette sonde portait le nom de ce médecin qui l'avait commercialisé, enfin, si je peux dire. Donc, certains d'entre nous sont allés en Angleterre et en Amérique pour apprendre cette technique où on pouvait aspirer simplement l'intérieur des femmes avec une sonde qui était souple et non plus rigide, comme on faisait les curetages autrefois, qui étaient avec des sondes en fer qui faisaient très mal et que l'on faisait à vif à l'époque pour punir les femmes. Et ça a été un grand progrès. C'est la première fois qu'une technique médicale ne nous a pas été apprise par nos patrons, par nos enseignants. Nous la sommes tous appris de la main à la main, si je peux dire. Donc voilà comment j'ai appris. Moi, c'est un collègue qui avait pu aller là-bas, qui m'a montré comment on faisait. Et nous-mêmes, nous l'avons pratiqué pendant des années. Voilà, donc j'ai participé à l'ouverture du centre d'orthogénie à Lyon. Voilà.
D'accord, mais avant, tu nous disais que c'était quoi les réseaux, comment les femmes elles faisaient pour se financer, comment...
Alors c'était tout du bouche à oreille, mais Josette, tu veux peut-être en parler?
Non,
vas-y,
parce que,
c'était le bouche à oreille qui fonctionnait.
Et les médecins, moi ce qui m'avait marqué quand on a parlé avant, c'est qu'ils faisaient ça gratuitement.
Donc oui, tout était fait bien sûr gratuitement. À ma connaissance, aucun médecin n'a jamais pris un centime. Les femmes donnaient ce qu'elles voulaient, si elles voulaient donner quelque chose, parce que bien sûr il nous fallait assurer cette stérilité et puis racheter des sondes et du matériel. Je dois dire que comme aspirateur, pour aspirer l'intérieur, bon, on avait une pompe à vélo, nous dans notre local, mais bon, tout était fait de manière...
Moi je disais que c'est... Oui, bah. Je disais que c'était pas une pompe à vélo, mais que j'avais ri, parce qu'on peut rire quand même dans ces moments-là, quand j'avais été dans le local, parce que en fait c'était la même pompe que mon père, qui était mécanicien, se servait pour gonfler les roues de sa voiture. Voilà.
Oui, alors on a versé le sang et c'est aspiré au lieu de gonfler.
Mais vous n'aviez pas peur, jamais vous avez arrêté de peur de vous faire arrêter?
Non. Moi, j'ai eu peur qu'il arrive parfois des choses aux femmes.
Se faire arrêter.
Je ne sais pas comment dire. L'une d'entre nous à Grenoble, Annie Ferré-Martin, qui était une médecin militante aussi, qui est citée dans ce livre, que je respecte beaucoup, qui était une amie, est allée en prison, effectivement, quelques jours. Mais le mouvement était lancé. On ne pouvait plus arrêter les femmes. C'était devenu trop criant. Il y avait eu le manifeste des 343 salopes. Il y avait
343
également...
seulement, hein, c'est les hommes qui les ont appelés des salopes.
Mais il y a eu aussi des médecins, 500 médecins aussi, qui avaient signé, qu'ils avaient fait des avortements. Donc je crois que là, le mouvement a été lancé, on ne pouvait plus l'arrêter. Mais quand même, et moi-même, je dois dire qu'à un moment, une fois, j'ai eu des menaces comme ça par rapport à mes enfants. J'ai reçu une lettre chez moi que, bon, si je continuais, il pouvait arriver. Et j'avoue que là, je me suis dit, est-ce que j'arrête? Et puis, bah non, j'ai continué de manière inconsciente, quoi.
Et toi, Josette, t'as jamais eu peur?
Alors, moi, j'ai jamais eu peur, effectivement, de me faire arrêter, de la police, enfin, bon, je... Mais là, il m'est arrivé quand même quelque chose. Déjà, pour avant de dire ce qui m'est arrivé, c'est que j'étais dans un groupe, le groupe de Vouvenvelin, je me sentais pas très à l'aise, les médecins n'étaient pas les militants que je souhaitais. Bon voilà, ça hein, c'est mon, je l'ai trouvé. Puis j'étais pas toute seule quand même à penser ça, voilà. Et puis lors d'un avortement dans le local de l'AMNEF, bon, en nettoyant donc le sang pour voir qu'est-ce qu'il y avait, ben on a trouvé des petits bras et des petites jambes. Et j'avoue que là ça m'a fait un choc. Bon, il est vrai que après on a discuté avec cette femme et en fait, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Personne n'avait voulu l'entendre, donc elle était venue nous voir en mentant sur, sur l'état de sa grossesse.
Bon, moi déjà, elle ne voulait pas avoir d'enfant.
Elle ne pouvait pas non plus. Elle avait les deux. Hein. Elle avait déjà eu des enfants et là, elle risquait quand même pour sa vie, pour maladie. Voilà,
pour elle-même.
Voilà. Oui, en plus elle, c'était même, il y avait ça aussi. Mm-hmm. Elle n'avait pas
elle
été entendue
quoi.
Par le corps
elle
médical. Voilà, elle avait des problèmes de santé. Et donc, on a quand même discuté après avec elle quand l'avortement était terminé. Enfin, on l'a pas fini de toute façon. L'avortement, c'était pas possible. Donc, on lui a conseillé d'aller très vite aux urgences. Mais avant qu'elle parte, on a discuté avec elle. Et bon, c'est là qu'elle nous a raconté qu'elle avait été obligée de nous mentir. Et bon, moi, j'avoue que déjà que j'étais pas très à l'aise dans ce groupe de travail et tout ça, enfin, de travail de militantisme. Bon, ben, j'ai arrêté de militer dans ce groupe. Mais ceci dit, n'ai jamais eu. Aucune rancœur avec la. Enfin, j'ai toujours trouvé que cette femme avait eu raison de faire ce qu'elle a fait. Voilà, elle n'avait pas d'autres moyens. Donc, et j'ai toujours été pour l'avortement. Et je suis toujours pour l'avortement, tout en pensant que ce n'est pas un acte bénin et que j'en ai un peu marre d'entendre des gens qui disent oh, elle fait un avortement comme si elle prenait une contraception. Voilà.
D'accord. Et toi, Jacqueline, est-ce que tu as déjà éprouvé des limites qui ne remettent bien sûr pas du tout en cause le droit à l'avortement dans tes pratiques ou...
Les limites, un peu comme Josette aussi, c'est-à-dire que je suis allée voir aussi les Hollandais qui faisaient, eux, des avortements plus tardifs que chez nous. Et j'avoue que je me suis dit que ces médecins étaient courageux parce que chacun a sa capacité d'encaisse, je dirais. Moi, je pouvais encaisser jusqu'à 12 semaines, mais plus tard, je crois que je n'aurais pas pu. Donc c'était, il y avait ça, et puis c'est vrai qu'aussi quand je travaillais au centre d'orthogénie, parfois des réflexions de femmes qui, souvent elles pouvaient être contentes de tomber sur une femme qui leur pratiquait ça, ou bien parfois elles me disaient, à plusieurs reprises on me l'a dit, comment vous faites pour faire ça vous qui êtes une femme, et c'était quand même des fois pas très agréable, même si je pense que je devrais avoir la Légion d'honneur, que je ne l'ai toujours pas, et que j'ai évité beaucoup de morts et d'infections.
Exactement. On te la décerne au nom de Radio Lilith.
En chocolat, j'espère.
Donc maintenant, nous allons écouter « Si je veux, quand je veux » du collectif pour des chansons de femmes.
Si Dieu ne nous donne pas les moyens de n'avoir que les enfants que nous voulons, c'est qu'il savait que ce serait catastrophique. Leur prévision démographique, surtout pas trop d'informations sur la contraception. Il vaut mieux culpabiliser celles qui se font avorter. Laissez-nous vivre, mais ne nous laissons pas aller. Laissez-nous vivre, mais ne nous laissons pas piéger. Si Dieu nous donne pas les moyens de n'avoir que les enfants que nous voulons. Contrôler la production, pour le contrôle de la production, combien d'enfants sont vraiment désirés et combien sont-ils ceux qu'on a fini par accepter. Laissez-nous vivre, mais ne nous laissons pas aller. Laissez-nous vivre, mais ne nous laissons pas piéger. Ils savent que si nous donnaient les moyens de n'avoir que les assez de chômeurs pour leur permettre de nous exploiter, que l'homme ne soit pas concerné par la maternité. Il vaut mieux qu'il reste à l'écart de ces champs en moutard. Laissez-nous vivre, mais ne nous laissons pas aller. Laissez-nous vivre, mais ne nous laissons pas piéger.
Vous êtes bien sur Radio Lilith, Martine et les autres, une émission féministe sur Radio Canu.
La plus rebelle des radios. 102.2. Bon, alors maintenant, on est en 1975. Les militantes défendaient l'avortement libre et gratuit. Et Simone Veil, en janvier 1975, arrive à faire passer la loi sur l'avortement et sera adoptée pour 4 ans. Mais cette loi est très restrictive et ne répond pas du tout aux demandes des militantes.
Non, elle demandait si c'était 5 ou 4.
Ah, c'est 4 ans.
Moi, je croyais que c'était 5 ans aussi, mais bon.
Non,
oui, aussi, bon.
Et après, en 79, je ne sais plus quel député la réappliquera. Donc, la loi de 1920 n'est pas abrogée. L'avortement reste de l'ordre du pénal, c'est-à-dire un crime. Donc, l'avortement hors structure médicale est toujours passible de prison. Et il y avait le MLAC, un mouvement de féministes qui continuait à pratiquer des avortements, qui, elles, défendaient l'avortement possible à domicile, comme pour l'accouchement. Et donc voilà, ça les pénalise. Et toute pratique par la méthode Karman et, non par des, et qui était pratiquée aussi par des non-professionnels est donc interdite par cette loi. Et la propagande et la publicité autour de l'avortement est toujours passible d'amende et d'emprisonnement. Cette loi ne reconnaît le droit à l'IVG que pour des femmes en situation de détresse. Les mineurs célibataires doivent avoir le consentement écrit d'un de leurs parents. Le remboursement n'est pas prévu. Les étrangères sans papiers ne peuvent pas avorter. Cette loi prévoit une éducation à la contraception mais n'est pas mise en œuvre. Et la loi organise un parcours du combattant pour la femme désirant avorter. Elle doit d'abord voir un médecin qui doit l'informer des risques encourus pour elle-même et pour ses maternités futures. Alors qu'en fait, l'avortement, il faut bien le dire et le redire et le dire à toutes vos amies et que tous ceux qui écoutent Radio Canu le propagent de partout, il n'y a pas d'impact sur la fertilité. Et en fait, le médecin, il informe d'abord des aides familiales, de l'adoption, puis après seulement de comment se pratique l'IVG et des centres d'IVG. Donc, et il met une énorme pression sur la patiente. Après, elle doit aller consulter un centre d'information et de conseil familial où l'assistante doit lui proposer des solutions à ses problèmes sociaux. Donc, elle est un peu pathologisée. Je ne sais pas s'il existe le mot, mais
ça existe.
Ouais, on sait qu'il existe. Et puis, une semaine après la première consultation, elle doit renouveler sa demande d'interruption auprès de son médecin par écrit. Alors là, le médecin peut pratiquer l'IVG dans un hôpital approprié. Cependant, les médecins peuvent refuser cet acte et donc après la loi Veil, les médecins en fait souvent refuseront et le Conseil de l'ordre des médecins était vraiment anti-IVG, très proche du mouvement là qu'on appelle maintenant SOS tout petit, mettait des blâmes, bah tu nous expliqueras tout à l'heure Jacqueline. Et voilà. Et les hôpitaux ne peuvent pas faire plus du quart de leurs interventions gynéco-obstétriques en IVG sous peine de fermeture et l'établissement doit informer à la femme les moyens de contraception. Voilà, et donc ben, tu nous expliques la situation à Lyon parce qu'il n'y avait pas de centre d'IVG. C'est ça, Jacqueline ?
Ouais, après la loi Veil.
En gros, c'est ça, mais seulement un quart dans un service gynéco-obstétrique, mais de toute façon, comme ils ne voulaient pas, c'était beaucoup, beaucoup moins que le quart. Bon, à Lyon, par exemple, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fallu séquestrer à un moment le directeur de l'hôpital Édouard Herriot parce que des mois après la promulgation de la loi en janvier 1975, on n'avait toujours pas de centre dans cette grande ville qui était Lyon. Il n'y avait toujours pas de possibilité d'avortement, donc on a encore continué les avortements clandestins pendant un an. Je dois vous dire que pour la contraception, si on dit qu'elle existe depuis fin 67, hein, début 68, donc décembre 67, ceux qui accréditent une loi, les décrets ne sont sortis que 4 ans après quand même. Donc elle n'a pas pu être appliquée.
La loi Neuwirth, tu veux dire.
La loi Neuwirth sur la contraception a été appliquée 4 ans après. Oui. Quand on a vu que la loi sur l'avortement, ça chauffait et qu'elle allait passer, les hostiles à l'avortement, d'un seul coup, ont découvert la contraception. Ils se sont dit vite, vite, pour pas que cette loi passe. Faisons vite appliquer la loi sur la contraception. Petite anecdote.
Donc, moi, je voudrais revenir sur la séquestration, parce que moi, ça m'a vachement frappé quand tu as parlé de ça. Et on voit en fait que quand on est dans un rapport de force, on utilise tous les moyens. Et là, la personne, elle n'a pas été séquestrée, elle n'a pas été maltraitée.
Non,
en fait, c'était
directeur.
Juste pour visibiliser que sur Lyon, il y avait un manque.
Ça a duré peut-être une heure. Voilà, il fallait vraiment lui demander des comptes, quoi. Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de centre d'interruption de grossesse à Lyon ? Il a d'ailleurs très mal pris, il a porté plainte contre l'un d'entre nous, un médecin, et le procès est passé d'ailleurs quelques années après. Ce médecin n'était pas ravi d'à nouveau être dans la presse alors que la loi était passée, c'était complètement aberrant. Le directeur n'avait pas du tout été molesté, mais bon, il avait porté plainte, voilà.
Mais ça a marché, parce que Simone Veil est venue sur Lyon.
Du coup, Simone Veil est venue à Lyon un an après, malgré tout, et s'est étonnée donc, que cette grande ville n'ait pas de centre d'orthogénie. Donc on peut dire que c'est grâce à elle qu'enfin on a pu ouvrir. Elle a posé un ultimatum au directeur des hospices civils de Lyon en disant qu'il fallait absolument que ça se fasse. Donc il y a un seul centre qui s'est ouvert à Lyon, c'est l'Hôtel Dieu, où personne ne voulait être notre patron, aucun patron de gynécologie obstétrique ne voulait assumer cette énorme responsabilité. Vous rendez compte, par à toutes les femmes, à toute la mortalité qu'on peut avoir en couche, quand on accouche, comme l'avortement, c'était quand même beaucoup plus simple qu'un accouchement. Donc, l'Hôtel Dieu a ouvert, et on faisait à peu près 2000 avortements par an. Donc nous étions 10 médecins vacataires, donc 9 hommes et puis une femme, donc la femme c'était moi. On a continué comme cela, et puis lorsque la gauche est passée en 81, nous nous sommes dit, bon ben on va enfin pouvoir avoir un statut un petit peu plus légal, puisqu'en somme on était une sorte d'appendice dans le service de gynécologie obstétrique, avec deux patrons qui étaient deux médecins légistes, qui étaient Édouard Herriot, qu'on ne voyait jamais, qui ne savaient pas faire d'interruption de grossesse, mais qui nous servaient de paravent, quoi, par rapport aux hospices, puisque dans un service, il doit y avoir des chefs de service, c'était une ou deux chefs de service. Donc on s'est dit, on va enfin quand même pouvoir faire un centre officiel et puis être des médecins vacateurs, donc révocables du jour au lendemain comme cela. Et on va avoir le soutien donc de nos politiques, puisque toute la gauche quand même avait voté pour cette loi. On n'a pas eu. Donc on s'est mis en grève, et puis nous avons été quatre à quitter le centre. Et pour ma part, je ne peux pas parler pour les autres, mais j'avoue que ça a coïncidé aussi avec une sorte de ras-le-bol, de non-reconnaissance, de tristesse, et puis parce que c'est pas anodin. J'étais dans la position des femmes qui avortaient quelque part. J'étais triste et je ne pouvais plus en faire. Voilà, donc ça a coïncidé à la fois avec ma position affective et ma position politique.
Et tu dis qu'à dans le centre, vous faisiez 2000 avortements.
2000 par an.
D'accord, 2000 par an.
2000 par an à l'Hôtel Dieu. Hein.
En 66, il y a des statistiques qui avaient été faites. Il y avait entre 250 000 avortements illégaux faits.
En France.
Et les études, ouais, en France, et les études montaient jusqu'à 850 000.
Plutôt 850 000.
Donc en fait, ça montre assez l'incohérence de la loi.
Tout à fait.
Et sinon,
dans le centre d'orthogynie, en fait, ça se passait comment? Est-ce que les gens venaient volontairement ou pas, les infirmières, par exemple?
Alors, donc, quand le centre s'est ouvert, bien sûr, donc on s'est recruté dans les médecins. J'ai le regret de dire qu'on n'était que des médecins militants. On n'aime pas les militants, mais heureusement qu'il y avait les militants pour assurer la situation. On fonctionnait, est-ce que j'ose dire, dans l'amour, mais au moins dans l'affection, c'est vrai. Il y avait deux gynécologues et tout le reste, c'était... On était médecin généraliste, il y avait un homéopathe, un dermatologue, enfin c'était très varié. Et il nous fallait quand même être solidaires, parce que c'était quand même un lieu de vie, où il y avait à la fois l'amour et la mort, quoi, hein, on peut dire. Donc il fallait qu'il y ait quand même une ambiance qui soit bien entre nous, qu'on soit solide, pour que la femme aussi puisse se sentir pas trop mal. Donc l'infirmière, il n'y avait pas beaucoup d'infirmières qui étaient venues, et il y en a une qui avait postulé pour venir, c'était aussi une militante, de même les dames de service, parce que c'était très 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 mal vu de travailler au centre d'orthogénie. Donc on était tous des volontaires pour y aller, vacataires. Est-ce que je peux chanter ma petite chanson là?
Ah oui, là.
Okay. On s'était donc fabriqué une petite chanson, c'était... Aux hospices sans prétention, on a mauvaise réputation. Qu'on avorte pas, on passe pour des je ne sais quoi. On ne fait pourtant de tort à personne en ne faisant qu'appliquer la loi en somme. Mais les patrons n'aiment pas que l'on suive une autre route que... Non, les patrons n'aiment pas que l'on suive une autre route que... Tout le monde nous montre au doigt. Sauf bien sûr les femmes, cela va de soi. Etc, etc. On avait des couplets géniaux, mais ça nous mettait en train, quoi.
Bravo. Ça a toujours fait du bien de chanter.
Merci. Et voilà, on va parler avec Josette. Qu'est-ce qui a changé pour toi avec la loi?
Qu'est-ce qui a changé pour moi avec la loi? En fait, bon, je trouve que même si c'était médicalisé, comme disait tout à l'heure Jacqueline, parce que j'ai dit que ça, et j'ai bien dire ça
il
aussi.
Il a bien fallu qu'on récupère notre pouvoir sur les femmes, Josette.
Oui, mais c'est, je ne sais pas de ça que je voulais. Oui, mais ça, moi, j'ai l'impression, dans le groupe où j'étais, de toute façon, les hommes, dans le groupe où j'étais d'avortement clandestin, les hommes qui étaient dans ce groupe, les deux médecins, bon, c'est effectivement des hommes, et j'ai pas très très bien compris leur quelle était leur motivation militante. J'avais vraiment l'impression qu'ils étaient un peu là Oh, je vais dire un gros mot, mais comme des dragueurs, quoi. Voilà, je l'ai un peu vécu comme ça. Et...
C'était l'exception, hein, parce que je dois dire que
c'était l'exception.
En général, étaient plutôt des gens.
Non, mais je suis d'accord avec toi. Et on était. Moi, ouais. Je me suis toujours sentie malheureuse de me retrouver dans le groupe de Vaux, parce que j'entendais parler de d'autres groupes où c'est les médecins avaient pris. Il y en a beaucoup qui sont restés célèbres, mais et puis qui le faisaient d'une manière militante. Et je ne sais pas pourquoi nous on n'a pas eu cette chance. Voilà.
C'est pour ça que t'as quitté. T'avais pas d'amour dans ton endroit.
J'en avais ailleurs. Non, mais il y avait de la, il y avait une grande amitié quand même. Bon, tu peux, donc, tu peux reposer ta question parce que Jacqueline m'a fait perdre tous mes moyens.
Donc,
c'est horrible.
Non, on essaye, en fait, on essaye de voir s'il y a des choses qui ont changé avec la voilà. loi. Et toi, ce que tu as ressenti
Alors moi, ce que, oui, c'est pour ça que j'ai un peu dérogé. Ce que j'ai ressenti avec la loi, justement, c'est que ça devenait un acte vraiment médical et que ça avait perdu ben, une espèce d'ampleur de prendre en compte la femme, c'est un acte médical, fallait passer par un centre de d'IVG, non un centre de planification pardon, avec ce qu'on appelait l'entretien social, ce qu'a tout à l'heure d'ailleurs dit Anne Claire, et que ça devenait quelque chose de enfin voilà, c'était réglé comme une balisé voilà.
Et vous les féministes vous battiez contre cette
oui.
D'accord. Voilà. Tu peux expliquer pourquoi ?
D'ailleurs, nous, on trouvait que l'entretien social obligatoire, c'était quelque chose qui infantilisait les femmes. Donc, on s'est beaucoup battu et à contre-courant par rapport à d'autres personnes, parce qu'il y avait beaucoup. Ça créait un métier, mais un métier qui n'avait pas, et qui n'a toujours pas d'ailleurs ni diplôme ni reconnaissance, c'est conseillère conjugale et familiale. Alors effectivement, beaucoup de conseillères conjugales et familiales, qui sont la plupart du temps des femmes, il y a quelques hommes, mais c'est pin-ups. Voilà, et elles ont eu très très peur de perdre leur emploi. Alors que nous, on a toujours dit, non, on n'est pas contre la... Si une femme a envie de discuter, parce que c'est pas un acte anodin, si une femme a envie d'en discuter, elle a le droit, mais on n'a pas à l'obliger. Et c'est vrai qu'on a fini par obtenir cela en 2001. Même si cette loi est restée restrictive, elle a au moins permis ça. Voilà, donc comme quoi... Il faut toujours lutter, quoi. Hein. Je pense que c'est très clair. Voilà.
Et pendant les années 70, est-ce que tu peux nous raconter les luttes qu'il y avait ? Bon, alors, il y a la lutte déjà qui était là, qui était effective, celle de faire des avortements clandestins, et celle dans les rues, dans...
Alors, moi, je me rappelle des manifs parce qu'elles étaient extraordinaires. En plus, on manifestait en mettant... Alors, c'est difficile à expliquer à la radio. Je ne sais pas si quelqu'un peut dire comment je fais là avec mes doigts.
Alors, je suis en train de nous faire un triangle avec ses doigts.
Et en fait, ça représentait le sexe féminin. Et une chose que je crois qu'on ferait plus maintenant, c'est qu'on s'amusait à badigeonner les vitrines des sex shops. Voilà. Et puis, on avait aussi des beaux slogans.
Tu veux dire tu taguais ?
Oui, enfin, on n'appelait pas comme ça à l'époque. Hein. C'est pour ça que je dis badigeonner, quoi. Voilà. Je crois que maintenant, c'est vrai que la lutte continue avec d'autres pratiques. Et...
Mais ces manifestations, elles étaient... Moi, j'ai des images de manifestations avec plein de femmes dans la rue. Et il y avait un truc qui avait l'air fort, en fait, là-dedans.
Oui, mais je ne sais pas trop comment l'expliquer, en fait, parce que j'ai le sentiment de l'avoir vécu avec...
On était emportés par une vague.
Mais c'était
moi, j'irais comme ça, on était emportés par une vague, et puis il y avait des hommes aussi dans les manifestations.
Oui, mais c'était essentiellement des femmes quand même.
Et puis en fait, dans les manifestations, ça rejoignait aussi d'autres demandes, c'est-à-dire la demande de l'égalité aussi sur le plan du travail, sur le plan des salaires, sur le
plan de l'éducation des enfants aussi.
On a relié toutes ces manifestations avec les autres luttes des femmes, et ça, je crois que c'était une force aussi, parce que c'était pas que l'avortement. Ce qui était important aussi, bien sûr.
Oui, mais j'étais aussi en train de penser qu'il y avait... on a aussi créé des revues. Enfin, il y a des femmes qui ont créé des revues, comme Le Torchon Brûle, enfin, je veux dire. Et c'est vrai qu'on était aussi portés par une... je ne sais pas comment dire, mais on avait tout à gagner et rien à perdre. Enfin, je veux dire, on s'en fichait de perdre. On avait tout à gagner, voilà. On n'avait rien à perdre et tout à gagner.
C'était que, tu sais que l'avortement, ça a quand même été toujours un secret de toutes les sociétés. Pour une fois, c'était dehors, quoi. Ce secret, c'était la première fois.
D'ailleurs, il y a un très beau film qui a été fait par, je vais pas me retrouver son nom, qui s'appelle Le Secret, et c'est une, Otero, Isabelle Otero, je crois, voilà. Ou c'est sa sœur, je sais plus, parce que voilà, il y en a deux, Otero. Il y en a une qui est cinéaste et l'autre qui est comédienne. Et elle a fait le film sur sa mère et ça s'appelle Le Secret, justement.
Il y a un très beau film aussi de Chabrol, Histoire de femme. Je vous conseille de le voir s'il passe, où vraiment tout est très bien expliqué sur les enjeux entre l'avortement, la liberté des femmes, le pouvoir, le sabre et le goupillon, si je peux dire.
Ouais.
Tout est très bien dit dans ce film.
Et nous, on a vu un documentaire qui s'appelle « Y'a qu'à pas baiser » de Carole Roussopopoulos, qui montre justement des manifestations de femmes, puis qui filme sur les trottoirs les réactions de personnes, de femmes qui participent pas, puis elles disent « Alors, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'elles disent l'avortement libre et gratuit ?» Puis elles sont toutes là « Oui, oui, oui !» Et c'est vraiment super fort ce truc-là, qu'elles étaient pas du tout contre.
Et d'ailleurs, dans le film, il montre aussi un avortement avec la méthode Carman. On dirait que c'est impressionnant, mais très intéressant à voir.
De toute façon, Carole Roustopoulos, c'était une grande militante. Hein, je parle au passé parce que je crois qu'elle est décédée, non?
Bon, alors, je sais pas. Je peux pas te dire.
Non, mais elle a créé aussi, elle a fait partie des personnes qui ont créé aussi le phare. Mais bon, on en parlera peut-être une autre fois. Enfin, on va dire quand même ce que ça veut dire. C'était le front d'homosexuel, front révolutionnaire d'homosexuel, d'action révolutionnaire. On est en train de me souffler, là.
Parce que nous sommes 10 dans le studio.
Mais comme l'heure tourne, on va vous demander toutes les deux de dire un mot de conclusion, quelque chose que vous avez envie de nous dire, de nous transmettre, de enfin, chacune votre tour. Ouais. Allez, Josette.
Alors moi, je peux dire que je suis super heureuse d'avoir rencontré ce petit groupe de Lilith, Martine et les autres, parce que c'est vrai que notre grande désespérance quand même, les femmes de ma génération qui nous sommes battues pour l'égalité homme-femme, pour le droit à l'avortement, pour le droit à la contraception, pour tout un tas. Bon, je fais pas l'éventail. Il y a eu un grand creux. Bon, on ne sait pas trop l'expliquer, enfin si on pourrait, mais on n'a pas bien le temps. Et là, de retrouver des jeunes femmes qui ont envie de faire repartir le mouvement féministe, ça, c'est du grand bonheur. Et je vois Jacqueline devant moi, qui
elle va vous dire un mot. Qui a 18 ans.
Ouais, qu'une petite fille qui a 18 ans.
Et Jacqueline,
moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut arrêter de dire aussi, il y a toujours tant d'avortements, elles ont tout, et puis c'est toutes des inconscientes, comme d'habitude, on leur a tout donné, et bien ça va encore pas. Bon, elles prennent pas leurs pilules, et puis elles avortent toujours. Alors il faudrait quand même différencier ce qui est l'amour, le désir, et puis la procréation. Ce sont deux choses très différentes. Qu'est-ce qui fait qu'on a du désir, qu'on aime, que d'un seul coup il y a le feu, et qu'il faut absolument que ça se passe, parce qu'on aime et que c'est la vie qui est là. Et puis la vie, c'est pas forcément de procréer. Donc il faut séparer complètement la contraception de l'avortement. Je pense que ce sont deux choses très différentes. Et puis les filles, soyez vigilantes. Hein. Attention, on veut vous récupérer vos droits. L'avortement, il faut faire attention. Pensez à vos condisciples dans les autres pays qui n'ont pas la chance d'être comme nous, de pouvoir avoir l'avortement. Demandez toujours à ce que cet avortement soit libre et gratuit, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus cette histoire des 12 semaines, 13 semaines, 14 semaines. Il y a toujours des femmes, et ce sont les plus démunies, croyez-moi, les plus dans la détresse, qui sont obligées de partir en Angleterre, en Hollande, et il y a des femmes qui sont toujours condamnées, qui passent en procès parce qu'elles donnent des adresses dans ces pays, et donc il faut encore vous bagarrer. La lutte est loin d'être finie. Les droits à la contraception, on les a. Vous le voyez, de moins en moins la contraception est remboursée. Elle devait être pourtant gratuite ou remboursée. Donc, battez-vous, il y a encore du pain sur la planche.
Oui. Bah, merci beaucoup, toutes les deux. Et maintenant, une petite chanson pour finir.
Ouais, la chanson, c'est l'hymne des femmes. Et c'est chanté par la Brigade d'Action Chantée. Et c'est une petite dédicace à une copine, nous. Voilà.
Nous sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, à cette vie humiliée, les femmes, achetées, vendues, violées. malheur, les femmes, l'une de l'autre ignorées. Ils nous ont divisé, les femmes, et de nos sœurs séparées. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves debout.
Bon, alors maintenant nous allons faire une interview avec des copines féministes de Grenoble qui ont écrit un bouquin qui s'appelle Avorter, qui a été édité par une maison d'édition lyonnaise qui s'appelle T'as une partie, une édition associative, machin. Donc, ce qui fait qu'ils arrivent à faire des livres à 4 euros. Et voilà. Et c'est l'histoire des luttes et des conditions d'avortement des années 60 à aujourd'hui. Et nous, on va parler avec elles des années 60-70. Est-ce que y a...
J'espère qu'on entend à l'antenne, là. Je suis pas sûre.
Ouais.
Alors, si, moi, j'entends. Je t'entends. Bonjour.
C'est bon ? Désolée, hein, c'est le petit direct par téléphone, c'est pas toujours facile.
Ouais, pas de problème.
Du coup, voilà, et ben c'est la parole à toi. Vas-y, présente-nous le bouquin Avorté alors.
Ok, direct.
Allons-y.
Ok, donc là, il y a deux personnes qui sont au téléphone, qui avons écrit le bouquin qui s'appelle Avorté. Donc le titre, c'est Histoire des luttes et des conditions d'avortement des années 1960 à aujourd'hui. C'est un travail qu'on a commencé à peu près il y a un an avec l'envie de pouvoir éclairer les conditions d'avortement au fur et à mesure des époques depuis les années 60 avec comme contexte un contexte national et un contexte local qui est Grenoble pour pouvoir mettre en lumière en fait les luttes qui se sont passées et qui ne nous sont pas transmises ni à l'école ni dans les médias. La seule chose qu'on a appris c'était qu'il y avait eu la loi Veil. Et en fait, cette victoire qui a été quand même saluée par beaucoup de femmes sur le fait qu'il y ait des conditions sanitaires, etc., possibles autour de l'avortement, il y a plein de revendications de nos aînés, en fait, qui n'étaient pas satisfaites. Et c'est là-dedans qu'on est allé creuser un peu.
Ce livre, en fait, il a été écrit par un collectif féministe. Et en fait, ce collectif, il est né parce qu'il y a 2 ans, il y a une copine qui a avorté à l'hôpital, donc... de façon tout à fait normale, et qui a vu peu de temps après un film du MLAC, donc du mouvement de libération de l'avortement et de la contraception, qui s'appelle « Regarde, elle a les yeux grands ouverts
», un film de 77.
Ouais. Et où on voit comment le MLAC pratiquait des avortements. Et elle s'est rendue compte que bah, voilà, dans les hôpitaux actuellement, il y a encore beaucoup de maltraitance envers les femmes et qu'on n'est pas du tout à faire des avortements de manière aussi humaine que... qui se faisait au MLAC à l'époque dans l'illégalité pourtant. Et du coup, on a pas mal fait des recherches sur les conditions d'avortement actuellement. On a aussi beaucoup travaillé. Il y a un nouveau centre d'IVG, enfin l'ancien centre autonome d'IVG qui avait été gagné par les luttes à Grenoble. Il est transféré dans un hôpital qui s'appelle Couple Enfant. Donc on s'est dit, oh là là, les conditions d'IVG sont pas forcément super et en plus elles sont en train de se dégrader. Et c'est en mettant notre nez là-dedans, en faisant des émissions de radio d'ailleurs, et en faisant des recherches, qu'on a eu l'envie d'écrire ce bouquin après.
Alors tu sais, moi je suis médecin généraliste à Lyon, et bon j'ai fait des avortements avant la loi, et puis après à l'hôpital à Lyon. J'ai participé beaucoup aux luttes aussi en tant que femme avorteuse, médecin. Donc je connais bien le docteur Robert Chambrial qui est votre médecin là-bas à Grenoble.
J'espère qui est un des médecins, ouais.
Voilà, j'espère que vous arrivez à le soutenir parce qu'il s'en est vu beaucoup et moi-même j'ai dû aller le soutenir avec d'autres qui étaient venus de Paris parce que tu sais que leur ça a été récupéré à l'hôpital par des patrons qui étaient complètement hostiles à l'avortement et qui s'envoient beaucoup pour continuer sa pratique. C'est le médecin du planning aussi. Hein, j'espère que vous... Enfin, je ne sais pas si vous y étiez, mais j'espère que vous arriverez à le soutenir aussi parce que je pense que sa pratique était tout à fait intéressante et c'est un vieux militant aussi. Non pas qu'il faille soutenir les vieux, mais je pense qu'il a une vue assez juste de la manière de faire et il s'envoie énormément. Voilà. Et vous le connaissez ?
Ouais, bien sûr. Il nous a aidés d'ailleurs
aidé.
Par rapport à ce bouquin, comme d'autres femmes du MLAC et tout ça. Et mais je pense
c'est
que
enfin,
nous, notre collectif à Grenoble, on a monté un collectif qui s'appelle FRASC, Féministe pour la réappropriation de l'avortement, des sexualités et des contraceptions. Et on soutient forcément toute structure ou médecin qui milite en fait dans sa pratique pour que les femmes aient le choix et fassent les choix par elles-mêmes. Et moi, ce que j'ai apprécié dans les vieux militants, c'est-à-dire que c'est vraiment des gens ouais, qui insistent sur le choix personnel, c'est-à-dire qu'ils vont pas penser à la place des femmes ce qui est bon pour elles. Et ça, c'est pour moi, pour nous, c'est vraiment important, quoi, de soutenir ça en fait.
Il faudrait que ce soit les femmes qui dirigent la situation et qui prennent les centres en main. Il faut que ce soit les femmes, absolument. Comme ça peut se faire en Belgique déjà, où elles ont des centres qui s'appellent centres de la femme, où se font la contraception, les interruptions de grossesse. Et surtout, actuellement, ce qui est extraordinaire, un énorme progrès, c'est la pilule abortive. Vous savez que ces comprimés, maintenant, sont dans les pharmacies. Donc on aura besoin, bien sûr, de passer par le médecin pour une prescription. Mais c'est très important qu'on se batte maintenant pour ça, parce que on n'aura plus besoin d'aspiration, et ça, c'est un progrès absolument extraordinaire.
Ouais.
Là-dessus, est-ce que vous avez encore un petit mot à nous dire sur le truc qui vous a marqué ?
Peut-être rajouter que là, comme on le disait, en fait, ce soutien à toute structure féministe, populaire, médicale qui soutient le choix des femmes, et aussi nous, avec ce travail de recherche, il y avait la conscience de qu'il y a des méthodes en fait, ou des moyens ou des lieux pour avorter qu'on a aussi envie de défendre, et c'est vers là où on va aussi en fait, hors institution également, et c'est ce que ce travail de recherche nous permet de comprendre avec des statistiques, des résultats, des voilà, qui démontent aussi tous les discours communs qu'on nous a inculqués et qui vont pas à la racine de ce qui s'est passé en fait.
D'accord, mais en tout cas, le bouquin est très beau, il faut le lire, il apporte plein de choses, et il est rempli de citations, autant des médecins du Conseil de l'Ordre qui étaient contre l'avortement, que d'affiches, que tout ça, et c'était... Voilà, merci beaucoup.
Ouais, donc le bouquin, en fait, il a été publié aux éditions Time Party.
Ouais, j'ai présenté ça tout à l'heure.
Voilà, et puis on le trouve sur Infokiosque aussi, je sais pas si tu l'as dit.
Ah, non, j'ai pas dit ça, sur
Infokiosque.net, I-N-F-O. KIOSUES.net, et du coup il y a tout le texte qui est...
Ouais, bah... Ah, Josette, elle a une question, attends.
Ouais.
Moi je voulais dire que je vous remercie beaucoup les filles de reprendre le relais comme ça et de cette manière là, bravo.
On remercie aussi nos aînés de nous avoir permis d'être là où on en est aussi, quoi, grave. Et c'est aussi elles qui nous ont beaucoup aidé pour ce bouquin qu'on a entendu. La première femme qu'on a rencontrée, elle a 80 ans, c'était au bord d'un quartier à Grenoble, et c'est la première qui nous dit ouais, la loi Veil c'était super, mais juste c'est insuffisant en fait. Et nous, c'est pas, on demandait pas que ça. Et elle nous a complètement éclairé en fait sur les autres choses qui étaient demandées et comment on peut aussi s'émanciper de encore aujourd'hui d'une maîtrise qu'il y a sur les femmes, de ne pas leur permettre de toute façon de vivre bien ou mal un avortement, parce que de toute façon il faut le vivre mal, etc. quoi. Du coup, merci aux aînés, bien sûr.
Ok. Eh ben, on vous invite le 8 mars. Vous savez, on fait 24 heures de Lilith Martin et les autres. Et bah, et nous, on va faire les actualités, et bah, à bientôt.
Ouais, ciao,
à bientôt.
Salut.
Ciao, ciao, merci encore.
Lilith, Martine et les autres, on va se remettre des émotions techniques parce que c'était assez marrant. Voilà, je vais faire un petit soutien à une amie parisienne qui a dénoncé un viol par un texte qu'elle a écrit. Elle a créé un blog qui s'appelle « Combien de fois en 4 ans ?» où elle a écrit un texte sur cette relation sexuelle non consentie. Voilà, et en fait, ce blog est devenu une plateforme par rapport aux viols et violences sexistes et tout ça. Et donc, elle balance ce texte sur un forum lors d'une discussion sur le sexisme, justement, où participe ce violeur. Et là, elle passe le texte et balance son nom. Et depuis, il y a de nombreux gars et plein de copines aussi, malheureusement, qui nient l'accusation de viol, rejettent ce texte comme stigmatisant le violeur, mais pas en soutien au violeur, et osent se demander quelle pression subissent les femmes lors de leur premier rapport sexuel, alors qu'ils nient complètement les propos de cette copine dans son texte, justement, de cette pression sexuelle qu'elle a subie parce que c'était la première fois et tout ça. Alors Lilith, Martine et les autres, nous réaffirmons un total soutien à cette amie qui se fait stigmatiser actuellement. Le violeur en question... vous proposez en fait d'aller porter plainte pour diffamation. Voilà, et donc nous on la soutient parce qu'elle l'ouvre pas par vengeance contre un beau gars qui l'a juste laissé tomber. Nous réaffirmons là qu'il y a un viol, même s'il n'est pas violent comme dans de nombreux cas médiatiques. Il y a eu violence psychologique, physique pendant et après le rapport. Nous la soutenons, la croyons
et nous voulons avec elle continuer à briser ces tabous autour des rapports sexuels non consentis, non pour faire une bataille clanique. Je reprends des termes en fait qui ont été écrits dans des dans les blogs et tout ça. Donc nous ne sommes pas ici pour faire une bataille clanique homme sexué et genré contre femme sexuée et genrée dans une vision essentialiste, mais au contraire nous réaffirmons que nous sommes construites socialement et que nous sommes dans une société où le viol est l'épée de Damoclès au-dessus de toutes les femmes et que c'est utilisé comme une épée de Damoclès pour que nous restions bien à notre place. Et ces schémas se reproduisent dans tous les milieux, les schémas de viol, même dans les milieux libertaires et présumément égalitaires entre hommes et femmes construits socialement. Nous répétons que nous sommes construits socialement et que nous ne sommes pas dans une vision essentialiste. Voilà. Au regard des nombreuses réactions de ces blogs, d'hommes qui nient, qui sont en soutien avec ce violeur, et de femmes qui malheureusement questionnent notre copine et tout ça, la lutte reste toujours importante. Sur infocasque.net, le lien qu'elle nous a donné tout à l'heure, il existe de nombreuses brochures intéressantes sur ce sujet. En novembre, Lilith a fait un sujet là-dessus sur violence et autodéfense, parce que nous ne défendons pas que nous sommes que des victimes, mais que nous pouvons nous défendre et que nous pouvons et que nous sommes capables de passer au-delà. Mais nous affirmons aussi qu'à un moment donné, ben, nous sommes victimes de cette société sexiste et patriarcale et tout ça. Je rappelle aussi qu'un texte avait été écrit en juin sur Rébellion, sur une autodéfense collective d'un groupe de copines par rapport à une fille qui s'était fait menacer oralement d'un viol. Et rares ont été sur les posts écrits après le mail des remerciements de ce témoignage, ou alors de montrer que des filles étaient capables de se défendre par elles-mêmes et de sortir de leur statut de victime. Mais encore une fois, le débat a tourné autour de la non-mixité qui revêtrait une forme d'intégrisme et qui serait donc la non-mixité à battre. Nous réaffirmons que les femmes doivent se défendre par elles-mêmes en non-mixité comme elles le veulent, et que quand une femme montre qu'il y a violence, c'est elle qui le définit et qui sait ce qu'elle soutient. Nous dénonçons cette stigmatisation vis-à-vis de ses copines et appelons toutes les femmes à se battre, à dénoncer des rapports sexuels non consentis, à visibiliser des menaces orales de viol, à dénoncer le viol. Et il y a une BD qui est vraiment super chouette, que je pense que, je sais pas où on la trouve en fait, qui montre plusieurs cases d'une fille qui est là avec en couple et qui dit « Non, j'ai mal à la tête », qui parle pas, qui hurle, qui plein de situations, et non, c'est non en fait. Toutes les formes de silence, d'esquiver une relation sexuelle, ça veut dire non. Et j'ai une introduction aussi à vous lire, qui est sur une brochure sur la société pro-vol et la notion de consentement. Personne n'est pro-viol et pourtant le sexisme existe. Personne n'est pro-viol et pourtant le viol est courant. Personne n'est pro-viol et pourtant quand on a été violé, ça reste à prouver. Autant dans notre milieu libertaire, égalitaire et anti-justice que chez les flics et face à la justice. Personne n'est pro-viol et pourtant, quand on a été violé, on l'a sans doute un peu cherché. Personne n'est pro-viol et pourtant, quand on a été violé, on est seul. Personne n'est pro-viol et pourtant, quand on a été violé, on doit se taire. Personne n'est pro-viol et pourtant, le viol devient public, le prétexte pour ne pas réagir et cautionner le viol ne manque pas. Et je vais lire aussi en... Après, je quitte l'antenne, mais je vais juste lire dans le bouquin Avorté le texte d'un médecin qui était dans les mouvements comme il y a maintenant anti-IVG pro-vie, et qui dit, en fait, c'est donc le professeur Lejeune qui avait signé en 71 un appel pour le respect de la vie. C'était 10 031 médecins qui avaient signé cet appel, et lui a déclaré lors du congrès du premier Laissez-les-vivre, là, qui s'apparente aux catho-intégristes contre l'avortement et les contraceptions. Et il y a deux formes de viol, celui où la femme résiste suffisamment et la femme est inféconde, c'est prouvé aux États-Unis, et celui où la femme résiste un peu et puis se laisse aller, et là il y a un risque de fécondation, mais c'est elle qui l'a cherché. Dans ce cas-là, oui, à la vie aussi. Et ça, c'était juste il y a 30 ans, et donc pour bien rappeler que nous devons continuer à lutter. Après, je vais faire vite fait.
Non.
Non.
T'as dépassé le temps, je crois.
Il y a trois colloques cette semaine, mais bon, vous allez chercher sur Internet. Il y en a un sur science et inégalité entre hommes et femmes à l'ENS le 2 février avec une féministe républicaine anti-voile. Et le 4 janvier, c'est lire Monique Wittig, une lesbienne radicale. Il y a un stage d'autodéfense en février, le 8 et 15 février. Et il y a une pièce de théâtre Femmes de Parloir. Voilà, merci d'avoir écouté Lilith Martin et les autres. Et désolée des 5 minutes.
Merci beaucoup.
Pris à l'émission d'après. Salut, salut.
Questa mattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Dance Zone Social Club. Radio Canu.